Alors le but, c'était de faire découvrir les coulisses finalement de l'ensemble. Il y a plusieurs ateliers qui se déroulent pendant ce week-end. Ici, c'est finalement il y a beaucoup de gens qui aiment se mettre un disque là sur la platine et puis diriger l'œuvre dans le salon.
C'est un peu comme on fait de la air guitare ou du air guitar.
Exactement. Alors c'est très louable, donc ça ne sert à rien, ou ça fait une très très belle gymnastique, ça peut être intéressant, mais disons on ne produit rien. Et c'est l'occasion de donner aux gens la possibilité de découvrir. Je suis devant l'ensemble, je suis devant l'orchestre, qu'est-ce que j'ai à faire, à quoi je sers surtout. Et peut-être il y aura des surprises, peut-être des gens qui vont se révéler, d'autres qui vont se révéler à eux-mêmes ce sentiment peut-être de responsabilité une fois qu'on est devant ces personnes. Et c'est ça le but.
Alors justement, il faut faire quoi en fait quand on dirige un orchestre? Il faut battre la mesure, il faut indiquer qui c'est qui joue quand?
Alors il y a plusieurs aspects. Le chef d'orchestre, c'est un appareil multifonction. Donner la battue pour mettre tout le monde dans le même rythme, c'est une chose basique. Elle n'est pas forcément nécessaire. Parfois, sur certaines pièces, imaginez une valse à trois temps, un mouvement du corps suffit à donner l'impulsion. Diriger les temps, chacun sait compter jusqu'à trois ou jusqu'à un.
En principe.
Alors on peut plus détruire en faisant trop de gestes qu'en ne faisant pas assez. Ça, c'est un aspect. Et ensuite, évidemment, il y a le travail sur des choses très compliquées. Il faut expliquer parfois, il faut consoler, des fois c'est des passages très compliqués, donner du courage aux gens, ça arrive, il y a l'aspect psychologique. Alors c'est toutes ces petites fonctions, qu'il faut faire découvrir, finalement. C'est la battue, c'est une chose, mais c'est de loin pas l'essentiel.
Mais le chef d'orchestre, on imagine bien tout le travail en amont, hein, parce qu'il y a toute la présentation, toute la préparation du concert. Mais au moment du concert, par exemple, les musiciens savent quand même déjà, j'allais presque dire non, le 80% de ce qui va se passer.
Ah, vous aviez raison, totalement. À ce moment-là, il s'agit d'abord de confirmer le travail qui a été fait. Il s'agit de donner le petit plus qui va faire que le concert se transmet, la musique se transmet par-dessus le chef d'orchestre, des interprètes au public. Et il faut essayer là de pas faire le paravent. Vous n'êtes plus le paravent, vous êtes le miroir ou le prisme, je ne sais quoi, mais il faut plus se mettre au travers, pas se mettre au chemin de la musique. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Il faut pouvoir donner ensuite confiance, parce que c'est un immense travail a été accompli. Si vous ne donnez pas cette confiance aux gens, ils n'auront pas confiance en eux. Il ne faut pas être un frein, en tout cas.
Alors, on l'a dit, on a tous les trois une baguette pour passer aux travaux pratiques. C'est indispensable, la baguette du chef d'orchestre. Elle sert à quoi, finalement, cette baguette?
Alors, la baguette était la représentation finalement, symbolique de l'archet, du violoniste qui faisait danser, le Stehgeiger en allemand. Finalement, c'est devenu un accessoire. Ce fameux Jean-Baptiste Lully, musicien du roi Louis XIV, avait un grand bâton et il frappait sur le sol pour donner le rythme. Mal lui en prit puisqu'il s'est tapé le pied.
Et il en est mort.
Ce qui fait que moi, je ne prends pas de risque. Je dirige sans baguette du tout. C'est un accessoire. Chacun fait comme il veut. On verra bien si les personnes amènent leur baguette, ça leur sert à quelque chose, comme baguette magique peut-être. Éventuellement, mais il n'y aura pas de contraintes à ce niveau-là. Simplement, les personnes qui se sont inscrites, il y en a 16, je trouve 16 courageux. Alors certaines apprennent la direction ou s'intéressent à la direction avec un professeur. On a d'autres qui se lancent comme ça dans la bagarre, en sachant lire la musique ou en ne sachant pas lire la musique. On a une dame, une de nos fidèles auditrices, qui a 69 ans et qui va se lancer. Elle me dit, je suis pianiste amateur, j'aimerais essayer, j'aimerais ressentir une fois ce que ça veut dire. Et voilà, ce sera toute cette constellation de personnes qui vont vouloir essayer, et le public va essayer de sentir, peut-être aussi confortablement assis dans la salle, le petit frisson.
Alors quand on va se retrouver comme ça devant les 21 musiciens du NEC, avec une partition par exemple de Tchostakovitch, je crois que c'est une des partitions que vous avez choisies, on s'y prend comment? C'est quoi la première chose qu'on fait? Un clin d'œil complice au violoniste, puisque généralement c'est avec lui qu'il y a la poignée de main entre le chef d'orchestre.
Alors, le clin d'œil complice, effectivement, vous avez raison, c'est très important. Mais c'est une question d'attitude. Si vous arrivez avec des craintes devant l'ensemble, ça va se communiquer. Il y aura une espèce de crispation qui va s'établir. Une attitude détendue, en général, provoque une attitude détendue de l'orchestre, de l'ensemble. Même si vous êtes en vous très, peut-être, comment dire, vous avez des craintes, des appréhensions, il ne faut pas les montrer. Voilà, c'est un phénomène, mais je pense que c'est dans chaque métier un peu public que ça se passe.
Merci. Oui, Jean-Michel.
Moi, j'avais une petite question aussi, parce que j'ai eu discuté avec des violonistes ou avec des pianistes qui disent, ben voilà, on a une pièce de prédilection et qu'on a envie de faire évoluer tout au long de notre carrière et de temps en temps, on la réinterprète en concert. Est-ce qu'il y a pour des chefs d'orchestre des œuvres aussi qu'ils se réjouissent de diriger plusieurs fois dans une carrière? Est-ce que ça existe?
Alors, encore une bonne question. Surtout pour le répertoire contemporain, c'est vrai qu'on... Parfois, il y a des pièces qu'on travaille et qu'on ne va jouer ou n'interpréter qu'une seule fois. Dans le répertoire classique, évidemment, c'est différent. Et bien là, la situation, typiquement, ce concerto de chambre de Ligeti, on l'avait interprété en 1998. Donc le Neck n'avait que 3 ans. C'est une pièce de résistance, d'une virtuosité assez incroyable. Et puis, on a l'occasion ici de la rejouer. Et j'ai écouté l'enregistrement qu'on avait fait là, en 98. Et... On sent qu'il y a une évolution, évidemment, un bagage musical. L'œuvre aura mûri, elle a mûri. Mais c'est assez rare, effectivement, dans le répertoire contemporain, qu'on ait l'occasion de faire quelque chose 2 fois ou 3 fois.
Très joui en tout cas de participer ce week-end aux 20 ans du NEC au LOCL. On mettra le programme complet évidemment en lien sur le blog de Format 3. On vous remercie beaucoup, Pierre-Alain Monod, d'être venu nous rendre visite ce matin.
Merci à vous.